Une création.
Blast.
Donc il faut juste se dire combien de personnes nous voulons, une sorte de immigration choisie plutôt que de le subir. Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible ?
Les métiers en tension, il n'y en a pas, c'est la France même qui est en tension.
C'est le système qui profite des travailleurs sans papier, c'est pas les sans-papiers qui profitent du système.
Pour tous les soutiens. Merci aux soutiens qui ont encore organisé cette lutte-là, parce que c'est notre vie, c'est notre quotidien.
Oui, je suis Dembélé Aboubakar, un militant des collectifs des travailleurs sans papier de Vitry, délégué des grévistes à Chronopost d'Alfortville. On est à deux chemins de Villeneuve-Saint-Georges, devant Chronopost d'Alfortville, là où il y a un piquet de grève depuis le 7 décembre 2021.
Nous allons continuer à dénoncer la Chronopost, qui est un filiale de la Poste. La Poste, chez laquelle l'État est un actionnaire stratégique. C'est l'État qui exploite les sans-papiers. C'est l'État qui fabrique des nouveaux sans-papiers. Et c'est l'État qui veut maintenir les sans-papiers sans papiers.
Au total, on est 200 personnes. Donc l'idée, c'est mettre une pression sur les patrons voyous, qui est Chronopost, mais nous, on a l'habitude de les appeler patrons voyous. On demande la régularisation des 18 personnes qui ont travaillé pour Chronopost et ses sous-traitants.
Mais ce qui est sûr, nous, on ne va pas arrêter. Il n'y a rien qui nous arrêtera. Alors courage à vous, on ne lâchera rien.
Le métier est dans la misère des travailleurs précaires. Et cette société-là, le métier est dans la galère. Le métier est dans la misère des travailleurs précaires. Et cette société-là...
Moi, j'ai quitté le Mali pour un objectif bien précis, c'est venir en France. Venir travailler et vivre dignement. Et surtout pouvoir envoyer de l'argent à ma mère, aux enfants. Que les enfants puissent aller à l'école, que tout le monde puisse manger à sa faim. J'étais étudiant au Mali. J'avais terminé mes études, donc j'ai une maîtrise en droit. Mais après les études, bon, on sait tous comment ça fonctionnait. Les systèmes là-bas, on n'était pas d'accord avec aussi. Hein. Pour être conseiller juridique, il faut avoir la famille. Même pour avoir un stage, il faut connaître quelqu'un dans les services. On n'était pas d'accord avec ces systèmes-là. Et c'est ces systèmes-là qui nous a poussés à partir. Toute la population sont dans la misère. Si quelqu'un tombe malade, il n'y a pas de moyens pour les soigner. Les enfants n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à aller à l'école. Nous, on est venus pour gagner notre vie dignement et donner une vie digne aux gens qui sont restés. Ils ont l'habitude de dire qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde. S'ils arrêtaient de fabriquer des misères partout où ils passaient, vous croyez qu'il y allait avoir des misères ici? Si moi, j'avais décroché un boulot au Mali, vous croyez que j'allais traverser la Méditerranée en disant il y a la Tour Eiffel en France? Même pas un rêve. Je pouvais aussi rester auprès de ma mère, auprès de mes frères. Vivre ma vie là-bas. Donc moi, je suis parti. Je suis arrivé au Maroc. Des Maroc au Mali, il n'y avait pas de visa à l'époque. Je suis arrivé en avion au Maroc. Je travaillais pour avoir ces billets-là. Maintenant, des Maroc en Espagne, je suis venu au bord d'un Zodiac. On était 72 personnes à bord. Et on est monté avec un Zodiac déjà crevé. Pour dire comment on tenait à partir. Déjà, un Zodiac en bon état, c'est les risques, il est 100%. Les chances, il n'y en a pas. Bon, on partait en disant soit on vit, soit on meurt. 72 personnes. C'est pas une fierté. Hein. On les regrette. Depuis qu'on a traversé, tout le monde les regrette. Pourquoi traverser? Ça valait pas la peine de mourir pour venir vivre dans ces conditions-là. Moi, je vous dis, les gens chantent la nuit avant de monter sur la Méditerranée. Ce soir, on sort. Ce soir, soit la mort, soit la vie. Les gens chantent ça. Ils le savent qu'ils ont un risque de mourir. Quand je suis arrivé, je connais un peu un droit quand même. On a regardé, pour être régularisé, il faut présenter des feuilles de paye. Pour avoir des feuilles de paye, il faut travailler. Pour travailler, il faut avoir les papiers. J'ai dit, mais ça, c'est des règles hypocrites, ça. On demande des feuilles de paye aux gens qui n'ont pas autorisation de travailler. Donc j'ai dit, mais on n'est pas sorti d'affaires. J'ai demandé la pièce d'identité de mon cousin, en disant, moi, j'ai besoin de travailler. Après, je suis venu en Île-de-France. Je suis arrivé au foyer de Saint-Denis, j'avais un ami. J'ai dit, écoute, tu sais où on peut trouver du boulot ici? Il a dit non, j'ai dit, écoute, il y a des Richebourg intérim. J'ai dit, écoute, on va aller s'inscrire là-bas. Lui, il était sans travail aussi. On arrive à Rangis, des Richebourg intérim. Ils disent, ils ne prennent pas les gens qui sont sur Paris. Moi, je dis, les gens qui habitent dans le 91, vous le prenez? Parce que moi, mon cousin, il habitait à JVG. Ils ont dit oui. Ben moi, je dis, je m'inscris. Il m'a donné le papier, je l'ai rempli. Il me demande la pièce d'identité, je dis, je pars. Il dit, mais par contre, je peux vous l'envoyer en photo. Elle a dit oui, elle a donné son email. Je l'ai envoyé tout de suite. Elle m'a demandé carte vitale, IRIB. Je dis, j'en ai pas. Elle m'a demandé un CV, je dis, j'en ai, je l'ai envoyé par mail. Par contre, je dis, arrivé à la maison, je vous enverrai la carte vitale et l'IRIB. Elle a dit oui. Après, je suis rentré, je lui ai envoyé la carte vitale, les RIB de mon cousin qui est en Imara et moi je suis en Damélé. Deux jours après, elle m'appelle vers 17h. Elle me dit, est-ce que vous êtes disponible pour travailler ce soir à 2h du matin chez Chronopost? Elle dit, est-ce que vous avez une chaussure de sécurité, un gilet jaune? Je réponds oui, moi j'avais besoin de boulot, mais je n'en avais pas. Je demande à mon ami, je dis, écoute, l'intérim il vient de m'appeler. Il faut que tu me prêtes ta chaussure de sécurité et ton gilet jaune. Et là, c'était en pleine pandémie. Hein. On était encore en confinement. Pas le couvre-feu, il y avait le confinement. Je suis rentré, je fais à manger, je dis à mon cousin, écoute, l'intérim il vient de m'appeler là, je commence ce soir. Il a dit non, c'est pas vrai. J'ai dit si. Il dit, tu sais, tout le monde, les gens en situation régulière, ils sont soit télétravail, soit chômage partiel. Maintenant, il n'y a plus de travailleurs. Tous les travailleurs que tu vois dehors, c'est clair, c'est un sans-papier.
Elles sont des centaines à se lever à l'aube pour nettoyer et désinfecter les chambres des hôpitaux.
Je suis dans une EHPAD, j'ai travaillé dans un service où il y a le Covid, voilà, sans aucun droit.
Pas de confinement pour les éboueurs.
Particulièrement exposés les caissières et les caissiers.
Eux, ils réclament le télétravail, ils restent chez eux. Mais s'il s'agit de faire des travaux qui prennent des risques, ils donnent ça aux sans-papiers.
On s'est rendu compte que s'ils arrêtaient de travailler, ben, le pays entier était à l'arrêt.
Quand Amazon propose de commander à 10h une souris et qu'on la reçoit le soir à 17h, j'ai l'impression qu'on est peu nombreux à se poser la question de mais qui c'est qui travaille derrière? C'est quoi les conditions de travail en fait?
Il y a beaucoup de gens qui ont même fabriqué des masques hein, pour d'autres, donc je pense quand même qu'il est temps quand même de valoriser les sans-papiers, c'est important. On ne peut plus fermer les yeux sur la situation des sans-papiers.
Je suis arrivé, j'ai croisé à peu près 6 Africains. Ils étaient tous Sénégalais. Après, le chef d'équipe il est venu, il a ouvert les portes. On est rentré, il a demandé chaussures de sécurité, gilet jaune. Et après, il nous a montré un camion qu'on doit décharger. Moi, ils m'ont mis dans un semi-remorque, rempli de colis de toutes sortes. 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos, 38 kilos, 50 kilos, toutes sortes. M'ont montré ça en me disant, vous allez mettre tout ça sur les tapis roulants automatiques, un par un, en mettant les étiquettes en évidence. Quand j'ai commencé, bim, 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 lui, il était là-haut, le chef d'équipe, qui disait, allez, il faut que ça aille vite. S'il y a 15 cm entre les colis, pour lui, ça ne va pas vite. Il faut que les colis soient collés, les étiquettes en évidence. Moi, j'ai pensé que c'était un boulot, mais là, ce n'est pas un boulot, c'est un esclavage moderne. Vous êtes dans un camion, vous le déchargez. Avec un chronomètre bien précis. Hein. Les petits camions, c'est 30 minutes. Le gros camion, c'est 3 quarts d'heure. Si vous n'y arrivez pas, vous commencez à vous plaindre. Vous êtes en fin de mission. Et les fins de mission, c'est en SMS. Le contrat, c'est en SMS. Fin de mission, c'est en SMS. Ne vous présentez pas à Chronopost d'Alfortville, Rue Warnier. Vous êtes en fin de mission. Point. C'est terminé. Chaque semaine, un contrat avec argument accroissement temporaire des activités. Alors que les postes sont pérennes, ça c'est une illégalité. C'est aux yeux au-dessus de tout le monde, mais personne n'en parle. Nous, on est payé 600 euros par mois chez Chronopost ici. 2h du matin jusqu'à 7h30. Ah, c'est les 10 métiers en tension. Nous, on sait qu'il n'y a aucun métier en tension. Si les gens refusent ces métiers-là, parce que les conditions de travail sont horribles. Les cadences sont infernales, les salaires sont indignes. Vous rentrez chez Chronopos, vous commencez à 2h ou 2h30 ou 3h du matin. Vous continuez jusqu'à 7h30 sans arrêt. Vous n'avez pas droit d'aller aux toilettes. Et si ce n'est pas les sans-papiers, personne ne va le faire. Ça veut dire, si nous on ne fait pas, ça devient un métier en tension. Les ménages, c'est pareil. Les coupures sont horribles. La personne elle va commencer à 9h, après à 10h c'est fini. Il faudra qu'ils reviennent à 13h ou même aller dans un autre département à 13h pour commencer et finir à 17h ou 18h, être payé à 900 euros, à 1000 euros. La restauration, c'est pareil. La plonge, et la plonge dans les restaurants, c'est pareil. On a des camarades qui font 150 heures et ils sont payés à 1000 euros à la fin de mois. Ben, les hôtels, c'est pareil. Ils sont majoritairement femmes. On a des femmes immigrées qui travaillaient là-bas. Avec tout ce qu'ils subissent, ils sont mieux placés pour en parler. Les marteaux-piqueurs dans les bâtiments, c'est pareil. Vous faites les marteaux-piqueurs de 8h jusqu'à 16h ou 17h, vous êtes payé à 1000 euros ou à 1200 euros. Ils nous parlent des métiers en tension, il n'y a pas de métier en tension. Il faut parler des conditions de travail, c'est pour ça que ces métiers-là sont en tension. Ça veut dire qu'ils ont un titre de séjour lié à un patron et la durée est déterminée par le gouvernement. Une fois, si le métier n'est plus en tension, par exemple, les ménages n'est plus en tension parce que les Françaises et Français se sont mis à faire les ménages maintenant. Donc, ceux qui les faisaient avant, ils perdent leur titre de séjour parce que c'est plus en tension.
Parler des métiers en tension, c'est tout le temps cette logique utilitariste de l'immigration. La personne vient ici que pour travailler. Pour travailler, il faut être en bonne santé, il faut travailler dans des métiers en tension. Or, la personne, elle vient peut-être avec un autre diplôme, elle veut faire autre chose. Moi, je m'appelle Pshira. Je suis d'origine tunisienne. Ça fait 8 ans que je suis en France. Quand je suis arrivée, j'avais un visa d'études. Je préparais ma thèse en histoire. Pour des démarches administratives et tout, j'ai perdu mes papiers qui me permettent d'être en règle ici en France et de travailler. Je me suis retrouvée sans papier et là, tout de suite, j'ai demandé l'avis des juristes de la CIMAD. Et l'idée, c'était que si on veut être régularisé, on veut avoir un titre de séjour ici en France, il faut avoir au moins 3 ans de présence en France avec des preuves de travail. À ce moment-là, je me suis formée à un travail qui est demandé en France, auxiliaire de vie. J'ai travaillé pendant 6 ans comme auxiliaire de vie, aide à domicile. J'étais tout le temps déclarée. Pourquoi ? Parce que j'étais assez informée pour savoir qu'on peut être déclarée même si on n'a pas une autorisation de travail, si on travaille dans certains métiers à domicile. Garde d'enfants, auxiliaire de vie, jardinage, peinture. Et grâce à des liens de confiance, j'ai réussi à travailler pendant un certain temps, déclaré en chèque emploi service universel. Mais les 3 ans se sont prolongés jusqu'à 6 ans, parce qu'au bout de 3 ans, je n'avais pas le nombre de fiches de paie suffisant. Du coup, ça a transformé en 5 ans. Et le jour où je suis arrivée aux 5 ans, et c'était le Covid, un an que je n'ai pas trouvé de rendez-vous pour déposer mon dossier de ma demande de régularisation. Et ça fait que ça s'est arrivé jusqu'à 6 ans. Maintenant, j'ai un titre de séjour pluriannuel et je travaille en lien avec un public d'exilés et autour de la question de médiation, de l'accueil. Et vu mon expérience et mon parcours, je veux faire ça en ce moment. Moi, personnellement, quand j'ai reçu mon récépissé, je me suis dit je voudrais que toute femme sans papier soit régularisée en France. Celle qui travaille le plus, pas déclarées dans des conditions de travail très pénibles et subissent plus de violences sur tous les niveaux, c'est les femmes parce qu'elles travaillent derrière des murs. Les chercheurs disent que 50% des exilés, c'est des femmes. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes exilés en France. Mais le problème, c'est qu'on parle plus des hommes. Malheureusement, aujourd'hui, on a même des femmes qui travaillent 2 euros l'heure, 3 euros l'heure, 4 euros l'heure. Et on peut avoir une femme sans papier qui peut être ici 24 sur 24 et la payer vraiment contre-service. Et si elle est payée, vraiment, c'est rien du tout. Cette personne, elle n'aura jamais des fiches de paie, elle n'aura jamais de preuves de travail, elle ne peut jamais être régularisée. On ne déclare pas alors qu'on confie les membres les plus chers de la famille, les enfants, les personnes âgées, mais on ne les déclare pas.
Rien n'oblige un particulier à déclarer une personne qui vient travailler à domicile s'il n'y a pas la bonne conscience. Malheureusement, il y a beaucoup qui profitent du système. Et leurs problèmes sont pas visibles. Et leur vécu n'est pas visible. Et les violences qu'elles subissent sur tous les niveaux, c'est pas visible. Et une femme exilée, si elle subit des harcèlements au travail, elle peut pas parler. Par exemple, il y a un patron qui promet à une dame qui travaille, par exemple, dans une boulangerie, qui subit chaque jour des harcèlements, qu'il y aura des déclarations, il y aura des fiches de paie, il y aura un CERFA à la fin, elle veut déposer sa demande. Elle ne va jamais déclarer, elle ne va jamais porter plainte contre ce patron.
J'étais sans papier et j'étais quand même livrée à moi-même. J'ai eu à travailler pour pas grand-chose, pour une misère. Et en plus, voilà, exposée aux hébergeants qui abusent, qui font des chantages. Il faut le dire, hein, pour... comme on appelle des avantages sexuels, hein, pour pouvoir passer une nuit, deux nuits. Donc ouais, c'est très violent quand même.
Moi, c'est Kwame Georges. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé à l'hôpital en tant que brancardier. La RH a pris mon attestation pour demandeur d'asile, pour... déclaré ma situation, qui avait une validité de 6 mois, et ils ont eu cette confiance en ma personne et ils connaissent très très bien ma situation, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à l'hôpital. On m'envoie des missions via une application dédiée au personnel soignant, donc ils me font appel tout le temps à remplacer des collègues brancardiers quand ils s'absentent, quand ils partent en vacances ou quand ils ne se sentent pas bien. C'était infernal dans le sens où tu es le seul brancardier, parce que dans la logique on devait quand même être 3-4 personnes à manipuler le lit, machin, tout ça, pour plus de précautions. Et puis c'est très physique, c'est très lourd. Les lits sont... c'est très lourd, quoi. Donc une seule personne, c'est hyper compliqué de ramener le patient au lit, faire son examen. Les appels se font de manière successive, à la même minute. Tu devais courir de gauche à droite faire ça. J'ai été formé aussi en tant que magasinier à la pharmacie de l'hôpital. Donc je remplaçais souvent des magasiniers qui s'absentaient. Il y a plus de 7, 8 palettes, 15 palettes parfois qui viennent. Et c'est plusieurs cartons. Hein. Au bout des premières années, ça allait. Vers les débuts de la deuxième année, j'ai commencé à subir des propos discriminatoires, des comportements discriminatoires, des médecins qui me hurlaient là-dessus, qui m'insultaient, des collègues qui m'insultaient, qui m'agressaient dans les propos. Et moi, ça me touchait émotionnellement. J'étais pas bien avec ma personne. J'ai passé l'info à la RH et je leur ai expliqué la situation. Je devais travailler au mois de janvier à mars 2024 et ils m'ont envoyé cette mission-là par texto. Et moi, j'ai répondu à l'offre par un message vocal sur WhatsApp où j'ai expliqué à la personne qui m'a envoyé l'SMS, c'était la cadre en pharmacie. Essayez de régler le problème qu'il y a en pharmacie avec votre équipe parce que j'ai l'impression que je suis pris pour cible. La manière dont ils me traitent, ils ne traitent pas les autres collègues comme ça. Je sais que je suis sans papier, mais j'ai subi des choses. Moi, j'ai mal, moi. Mais je ne peux pas agir. Je leur ai dit par vocal WhatsApp à cette cadre en pharmacie que tant que le problème n'a pas été résolu, moi, je ne peux pas me permettre de venir travailler dans l'hôpital. Ça fait 3 ans que je suis avec vous. Je vous ai expliqué ma situation. Je vous ai dit, je suis sans papier, vous le savez très bien. Je suis venu vers vous, je vous ai dit, vous avez l'effectif qu'il faut, certes, mais essayez de me donner une promesse d'embauche pour que moi aussi, je puisse régulariser ma situation. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, qu'ils ne peuvent pas. Par contre, j'ai travaillé de manière successive pendant 3 ans avec eux, que avec l'attestation pour demandeur d'asile qui avait une durée de 6 mois. La RH, ils m'ont envoyé un email et ils m'ont expliqué comme quoi faudrait plus jamais que tu remettes les pieds ici et il faudrait que tu ailles régulariser ta situation ailleurs, mais pas ici. Ça m'a mis un coup parce que je me suis dit, mais attendez, mais pendant le Covid, mes collègues brancardiers, ils étaient malades, ils étaient à la maison. Vous m'avez fait appel, moi je suis venu, j'ai travaillé avec vous pendant le Covid, j'étais au premier rang. Et je raccompagnais à chaque fois les patients Covid faire des examens et tout ça. J'ai mis moi aussi ma vie en jeu à faire ça. J'ai jamais décliné une mission. Mais essayez de m'aider aussi à régulariser ma situation. Ça fait 3 ans que je travaille avec vous. Ne me pas tenter à me voir physiquement, avoir un entretien avec moi pour m'expliquer les choses, pour un peu de respect. C'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les étrangers. Parce que c'est hyper compliqué, étant sans papier, c'est hyper compliqué. Tu as l'impression de vivre et de ne pas vivre. Tu assistes à la vie et tu observes les autres vivre et tu fais que observer, quoi. C'est-à-dire, tant que ta situation ne se régularise pas, tu es là et tu observes. Et je trouve ça très cruel et douloureux de ne pas pouvoir avoir la possibilité d'être autonome au niveau professionnel et au niveau financier. Tu restes dans l'attente et tu es là, tu attends. Tu attends pour voir s'il y a un miracle qui peut se produire ou pas. Donc pour des personnes qui connaissent les papiers ou des personnes avec la nationalité française et tout, qui ont cette facilité de critiquer les étrangers, sans papiers, machin, tout ça, je crois que c'est des personnes qui ne s'en rendent pas compte de la situation, qui ne connaissent pas la vie et qui ne savent pas ce qu'on subit émotionnellement. Il faut vivre ce qu'on vit pour comprendre nos émotions, nos peurs et voilà.
La colonisation est terminée, mais elle est là sous une autre forme. L'exploitation économique. Alors aujourd'hui, ce qui se passe ici, avec les sans-papiers, ça s'appelle la délocalisation sur place. Les usines qu'on peut délocaliser, on l'envoie soit au Sénégal, soit au Côte d'Ivoire, soit au Mali, soit au Niger. Les restaurants, on ne peut pas les délocaliser. Les chantiers d'agriculture, on ne peut pas les délocaliser. Les entrepôts Chronopost, on ne peut pas les délocaliser. Les bâtiments, on ne peut pas les délocaliser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer un main-d'œuvre moins cher. Travailleurs sans papier. C'est ça, ils fabriquent des sans-papiers. Ils maintiennent ceux qui sont déjà sans papier, ils nous maintiennent sans papier. Et derrière, ils nous exploitent. Et avec tout ça, c'est nous les problèmes. Ça, c'est pour détourner l'attention des Françaises et des Français en disant les problèmes, c'est les immigrés, c'est l'immigration, ils sont là pour voler vos boulots, machin. Je crois que le président de la République, il a dit pour trouver un boulot, il faut traverser la route. Mais traverser la route pour faire quoi? Les gens en situation régulière, Françaises et Français, ils ne vont pas travailler pour survivre. Ils veulent travailler pour vivre. Aujourd'hui, nous, on travaille pour survivre. Mais une fois stabilisé, soit je serai un conducteur de train un jour, soit un groutier. Ça m'attire.